L'esprit critique. Mediapart.
L'esprit critique de ce jour aborde trois textes qui, par-delà des époques, des langues et des situations très différentes, partagent le fait que leur personnage principal a connu l'exil, quitte à mourir congelé dans une rue de Toronto, à batailler devant un juge français avec un traducteur infidèle, ou à se morfondre de jalousie dans la pampa argentine. On évoque en effet aujourd'hui successivement deux grands hommes ennemis de Diadié Dembélé, paru chez Jean-Claude Lattès, Cold Case de Vincent Labruf, qui a été publié aux éditions Verticales, et enfin la republication aux éditions du Tripode du livre de l'écrivain argentin Juan José Saer, L'Occasion. On discute de ces trois livres avec Lise Wajman, professeur de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Blandine Rinkel, à la fois écrivaine, critique et musicienne, et Younes Boussena qui s'occupe notamment de l'actualité littéraire pour Télérama. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Deux grands hommes ennemis et le deuxième roman de Diadié Dembélé, né dans l'Est du Mali et diplômé du master de création littéraire de l'université Paris 8, comme un certain nombre des voix récentes de la littérature contemporaine. Publié aux éditions Jean-Claude Lattès, le roman puise dans le pays d'origine de Diadié Dembélé, mais aussi dans l'expérience de l'auteur en tant qu'interprète au sein d'une association d'aide aux migrants. Le livre raconte l'itinéraire d'un village du Mali jusqu'à Bamako puis Paris, de deux amis, Mantia et Toko, racontés à travers le récit du premier livré face à la justice. « Puisque monsieur le juge veut savoir pourquoi j'ai quitté mon village et pourquoi j'ai choisi la France, écrivez », intime en effet le narrateur. Alors le dispositif choisi est très singulier puisque c'est Mantia qui raconte son histoire et celle de son ami depuis le centre de rétention de Vincennes en se confiant à un juge grâce à un traducteur et en espérant obtenir des papiers. Mais le traducteur l'interrompt souvent, le livre est largement adressé à ce monsieur dont on ne sait toujours s'il cherche à affiner la traduction des propos ou au contraire à imposer un certain type de discours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dispositif très particulier, Blandine Rinkel ?
Je l'ai trouvé intéressant parce que vous dites que le traducteur l'interrompt souvent, mais en fait, cette interruption, on ne l'entend jamais. On entend quelqu'un qui s'appelle Mantia, qui va jusqu'au bout de sa parole. Et j'ai eu la sensation, en lisant, de lire le monologue de quelqu'un à qui on a, de manière générale, trop coupé la parole. Et donc, c'est un monologue qui, parfois, est un peu logoréique, mais comme s'il était écrit d'un souffle pour tout dire, pour toucher à l'os de la parole, comme il l'écrit, avant d'être interrompu. Et la littérature comme lieu où celles et ceux qui sont habitués à se faire couper la parole peuvent enfin finir leur phrase, c'est quelque chose qui me parle et me touche. Et il y a d'ailleurs une scène assez saisissante où il rencontre une femme sans papier qui, elle aussi, d'avoir soudain un auditeur en la personne de Mantia, se met à parler fiévreusement avec un monologue qui pourrait durer des heures et voilà, qui n'en finit pas. Et donc à cette peur d'être coupée se joint une défiance envers le destinataire du monologue, envers aussi le lecteur, envers le traducteur qui écoute le monologue de Mantia, mais aussi envers le lecteur. Et il y a une insolence, une manière de toiser ce lecteur qui n'a rien à voir avec le surplomb ou la condescendance qu'on peut trouver dans certains romans coup de poing des classes aisées qu'on a chroniqué, dont on a parlé ces dernières années. Là, c'est une défiance, une ironie et même un humour qui ne surplombe jamais rien, mais qui sauve sa dignité et très concrètement qui sauve sa peau et qui s'adresse aussi à lui-même, pour finir sur ce dispositif. C'est-à-dire que je crois que Diadié Dembélé, à travers la manière dont Mantia parle à son traducteur potentiel, s'adresse à lui-même et fait son propre procès, en fait, à travers les piques envoyées par son narrateur au traducteur. C'est aussi lui, Diadié Dembélé, qui sait qu'il se traduit, qu'il sait qu'il parle pour d'autres personnes. Donc il est à la fois l'émetteur et le traducteur. Et c'est une manière de dire, est-ce que en fait, vraiment les compatriotes, il en parle comme ça à la fin, les compatriotes de Diadié Dembélé ont besoin de lui, qui nage dans la langue française avec une aisance totale, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui pour les défendre? Sans doute, et en même temps, sans doute que pas. Et tout repose voilà, sur cette ironie.
Lise Wajman, sur ce dispositif, et sur le fait qu'effectivement, il y a quand même un monsieur auquel est adressé le texte, mais un tu auquel il est adressé, donc on peut se dire que c'est n'importe quel lecteur, et effectivement, c'est sans doute des fois le narrateur lui-même qui s'interpelle. Donc vraiment, là, on est sur un dispositif littéraire très particulier. Qu'est-ce que ça a produit pour vous ?
Comme Blandine, moi, j'ai été très touchée en fait, par ces apostrophes, ce monsieur qui rythme le récit. En fait, ça m'a rappelé un livre qui n'a rien à voir, qui est Léonce de Pierre Michon, qui est aussi marqué par cette interpellation par ce monsieur et qui a produit un effet très émouvant. Ça peut sembler mineur, mais en fait, ça traduit quelque chose de l'ensemble du texte, c'est-à-dire c'est à la fois extrêmement solennel, hein, c'est pas interpeller quelqu'un par son nom, c'est à la fois une supplication, une demande, et en même temps, c'est une semence, c'est une exigence. Et donc, parce que derrière, enfin, c'est ce que Blandine disait, derrière l'interprète, il y a l'écrivain, mais il y a nous aussi, les lectrices. Et on est à la fois séduit, on est à la fois prié, et on est à la fois sommé. Et c'est extrêmement touchant. Après, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la composition du roman, en fait, se nourrit de documents, au premier titre desquels, la photo sur le bandeau de couverture, qui est l'exhibition du procédé de composition du roman. Donc, un double portrait dû à un photographe malien des années 50-60, qui s'appelait Abdourahman Sakali. Et donc, on a un cliché qui montre deux personnages avec des accessoires. Catherine Mazurik, dans En attendant un ado, dit qu'il y a d'autres photos de ces mêmes deux amis, mais qui se sont répartis autrement les accessoires, ça aurait fait une autre fiction. Donc on a un matériau qui nous est montré dès la photo de couverture et qui après se nourrit aussi bien sûr des expériences de Diadie Dembélé comme interprète. Mais il y a cette espèce de dispositif qui s'affiche globalement et qui fonctionne très bien.
Même question, Younès Boussena, avec la question un peu qui est derrière, c'est que on a tellement entendu d'histoires comme ça, est-ce qu'il arrive par ce dispositif singulier à déjouer les discours soit lénifiants, soit agressifs sur l'immigration qui saturent une bonne partie du champ social et médiatique?
En effet, je crois que Diadie Mbélé reprend des thèmes très classiques de la littérature africaine francophone depuis les années 50-60, c'est-à-dire l'exil, le rapport à la France à travers sa langue. Et je trouve que c'est là où justement il est assez fort, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une généalogie littéraire qui est aujourd'hui assez classique, mais il y apporte quelque chose et une voix qui est très actuelle, très contemporaine. Moi, je le suis depuis son premier roman, qui est Le duel des grands-mères, que j'avais chroniqué, donc c'était en 2022. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses positives, mais il y avait certains axes que j'aurais, qui étaient peut-être un peu sages encore ou qui peut-être pouvaient aller encore plus loin. Et je trouve que ce livre-là, on dit souvent que c'est le deuxième roman le plus difficile parce que le premier, on a dit un truc essentiel. Et puis, quand on a été repéré, il y a une forme d'attente. Et je trouve que non seulement il réussit son pari, mais que c'est même un livre de confirmation que c'est un vrai écrivain, au sens noble, on va dire, puisqu'il a un monde et à la fois une écriture. Et ce monde de Diadie Dembélé, c'est effectivement cette expérience de la migration qui était déjà présent dans le premier roman et que je trouve là où il est très intéressant, c'est qu'il voit cette migration à travers un œil dialectique, c'est-à-dire qu'il le voit depuis le point de départ qui est le village et depuis le point d'arrivée qui est la France, avec cet entre-deux qui est Bamako. Voilà, ça c'est quelque chose qui était déjà un peu présent dans le premier, mais qui là est vraiment au centre de la narration. Ça se cristallise dans un rapport ambigu à la langue française qui traverse à chaque fois ses livres, qui à la fois cette langue.
Alors, de la langue.
Peut-être que justement, on écoute un extrait avant de parler de la langue, comme ça les auditrices pourront en avoir un aperçu s'ils n'ont pas encore ouvert le livre.
Monsieur, la manière dont vous et moi avons les mêmes traits physiques, voyons ce fait, un trait noir là où il ne faudrait pas, votre nez appuyé au centre, aussi votre menton fuyant, pourvu qu'on ne vous enlève pas votre pantalon pour vérifier l'empreinte du vieux forgeron, mais seulement la façon dont nos scarifications renseignent sur nos origines communes et cette marque que vous avez sur le front suffisent à les alerter sur votre partialité. Vous êtes de mon côté, j'en ai la certitude. Vous n'avez pas besoin de le formuler. Je l'entends dans votre silence. Cela ne sera pas un souci. Puisque vous faites l'aveugle, nous serons deux. Puisque ce qui est déjà ne pourrait qu'être. Le pays des Français ayant des lois qui nous garantissent des droits, vous pour moi, comme témoin de ma langue et de mon histoire, moi pour vous, client parmi d'autres, je vous raconterai tout dans les moindres détails. Je couche un seul avertissement par terre. Ne pas m'interrompre lorsque je suis sur le point de toucher à un os de la parole. Cette partie dure, voyez-vous, qui jaillit de chaque parole, dite avec sérieux et rigueur, et qui disparaît dès que l'on moque la tonalité ou l'accent de celui qui l'a prononcée. Ne me voyez pas dans cette connerie biscornue pour juger de ma valeur. Sautez sur mes mots. Penchez-vous, si ça vous menace la tête ou heurte votre épaule, mais ne vous avisez pas de m'interrompre.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait d'une langue dont on va discuter, mais dont il faut bien dire qu'elle n'est pas homogène hein, tout au long du livre, il me semble, même si il y en a des formules, des styles et des structures. Blandine.
Alors, j'ai quelque chose à dire sur la langue, mais pourquoi j'ai choisi cet extrait précisément ? Il fait partie du deuxième chapitre, c'est au tout début. Et c'est à partir de là où j'ai saisi, moi, l'ironie légère de Diadier Dembélé, qui est à la fois une manière d'orgueil et d'humilité. Et en fait, en saisissant ça, j'ai repensé à ce que disait Mohamed Mbougarsar dans un podcast légitime de la journaliste Nesrine Slaoui. Et il disait que l'ironie en littérature, voire l'humour, peuvent être des alternatives à la colère pour signaler les traitements de faveur ou de défaveur, fourbes, ceux dont on n'est pas tout à fait dupe. Et en l'occurrence, le narrateur du livre, Mantia, est officiellement écouté par un avocat, on l'a dit, par un traducteur. Mais il n'est pas tout à fait dupe de l'écoute de ces gens qu'il devine potentiellement viciés, potentiellement un peu perverses, à la fois attentives et à la fois qui pourraient les déformer à tout moment. Et l'insolence, voilà, cette ironie mêlée de colère lui permet de signaler ça, signaler qu'il n'est pas tout à fait dupe. Et on l'entend un peu dans cet extrait et on l'entend vraiment jusqu'au bout du livre.
Younes, je vous ai coupé sur la langue.
Oui, bah, en tout cas, ce détour par Mohamed Mbougarsar est marrant, puisqu'il y a quand même deux clins d'œil dans le livre que j'ai relevé à ce cousin, et peut-être grand frère de Diadier Dembélé, puisque tous deux incarnent quand même une nouvelle génération d'Africains francophones. Et sur cette langue, alors effectivement, elle est frappante. Je trouve qu'elle est très inventive, elle est rythmée. Moi, dès son premier roman, justement, et je trouve que là, il va encore plus loin là-dedans, elle me fait penser un peu à Amadou Kourouma, donc ce grand écrivain ivoirien qui est décédé en 2002, qui est quand même un des père aussi de toute cette littérature. Et c'est une langue qui est intéressante parce qu'elle mélange l'ironie, l'envolée parfois. Il y a une gravité, mais qui est en même temps souriante. Donc il y a beaucoup de dimensions, je trouve, qui sont intriquées. Et on voit aussi que Diadier Dembélé est poète, puisque son tout premier livre, c'était Les Tresses Royales en 2019 et qui était un recueil poétique. Et je trouve que voilà, il y a vraiment une forme d'imbrication de ces différentes formes.
Oui, ça reste vraiment des styles, des néologismes. On a plein, notamment, de collusions de mots. Hein. Le père va saute-bondi sur son fils. On a beaucoup de créations
dans la syntaxe.
Enfin,
c'est pas seulement le lexique, quoi. C'est, ouais. Ou des adverbes, des proverbes. Il y a toute une série de tournures. Moi aussi, j'étais très sensible à la façon dont ça animait le propos. D'ailleurs, à ce propos, on peut se dire que les trois livres dont on va parler aujourd'hui sont travaillés par cette question de la revivification de la langue par la rencontre avec d'autres langues, puisque les deux autres romans dont on va parler font aussi parler des personnages qui mélangent toutes sortes de langues et du même coup font entendre un autre français. Et il y a une joie profonde de cette réanimation du français, ça enchante tout. Alors, pour moi, c'est vraiment, enfin, à la lecture, c'est vraiment une joie. Peut-être qu'il y a un endroit où c'est aussi une limite. C'est-à-dire que c'est un peu dur à dire, mais évidemment, il y a un moment où aussi cette douceur, ce lyrisme vient au service d'une histoire qui est quand même terrible. Et il y a un moment où on se demande si on voudrait aussi entendre la colère brute, quoi.
Moi j'ai eu l'impression que la langue française pour Diadier Dembélé était comme une arme et un piège à la fois.
Ouais.
Il y a une phrase qu'il dit, quoi qu'il en soit, donc dans le livre, quoi qu'il en soit, dit le narrateur, je resterai ce milliardaire en mots incapable de faire des phrases correctes. Et on sent en fait que c'est la raison pour laquelle il écrit, parce que cette langue française, qui est la langue du colonisateur, est en même temps une langue qu'il aime profondément, avec laquelle il veut écrire, et que c'est très tendu. Il cherche un lieu où concilier ses contradictions. En même temps, formulations qui font état de ces contradictions deviennent si lyriques, si enchevêtrées, si je ne sais pas comment les qualifier exactement, mais si compliquées en fait, parfois, qu'elles lestent un petit peu le texte. Et en fait, ça m'a fait penser à un essai de Kaoutar Archi qui était paru aux éditions Pauvert il y a quelques années, qui s'appelait « Je parle une langue, mais ce n'est pas la mienne ». Là où la langue peut devenir vraiment le lieu d'une lutte interne, mais dont on ne peut pas tout à fait sortir. Et j'ai entendu un podcast de Diadier Dembélé sur le duel des grands-mères, où il disait que finalement, il était en train de reproduire ce pourquoi inconsciemment il écrit. C'est-à-dire pour s'émanciper d'une langue. Il écrit pour ça, pour s'émanciper d'une langue et d'une et d'une manière de voir le monde et de le penser, qui est la manière de voir et de penser le monde du colonisateur au départ, pour s'en émanciper. Et en même temps, bah, il utilise précisément cette langue et donc
oui,
elle l'écrase en même temps qu'elle
conscient.
Le révèle.
Oui,
oui mais même en étant...
Il en est conscient, mais effectivement, il ne s'en tire pas forcément complètement à chaque fois. Moi, j'ai trouvé que notamment sur la fin, quand il inscrit vraiment l'histoire de son personnage dans une histoire collective emblématique, qui est celle des sans-papiers de Saint-Bernard, et ben en fait, quand, au moment où on est vraiment sur une histoire qu'on connaît, peut-être que justement, il se fait davantage piéger par la langue qu'il en fait une arme d'émancipation. Mais Younes n'est pas tout à fait d'accord.
Non, parce que déjà, je pense que c'est un peu la contradiction dans laquelle et la tension dans laquelle sont prises tous les écrivains voilà, africains francophones. Bah, moi, Madame Bougarsar, la plus secrète mémoire des hommes, portait précisément aussi sur l'exploration de cette tension. Et là où je suis en désaccord sur deux points, le premier, c'est que je pense que cette distance... un peu ironique, elle est aussi un geste qui est propre aussi à cette tradition. Encore une fois, quand pour parler d'Amadou Kourouma, dans « Allah n'est pas obligé », c'est l'histoire d'un enfant soldat, et on retrouve un peu aussi cette distance-là. Et par ailleurs, je trouve qu'elle n'est pas toujours, l'ironie ou cette espèce de sourire n'est pas toujours là. Et moi, en particulier, je pense qu'il faut mentionner la toute fin, les deux dernières pages, qui sont quand même une espèce de cri un peu universel sur la condition des migrants et sur finalement ces deux émigrés qui sont un peu insultés et pas accueillis en France. Et je trouve que là, il y a une sorte de point de fusion dans sa langue qui est, je trouve, assez touchant. Enfin, moi, ces derniers temps, j'ai assez peu lu de pages qui m'ont à ce point-là touché.
Deux grands hommes ennemis dont je vous laisserai découvrir la signification. C'est signé Diadier Dembélé et c'est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
L'esprit critique. Mediapart.
Cold Case est le quatrième livre publié aux éditions Verticales par Alexandre Labruf après un premier roman intitulé « Chronique d'une station-service » et un récit documentaire titré « Un hiver à Wuhan » documentant les débuts de l'épidémie de Covid en Chine. Ici, l'auteur mène une enquête littéraire sur l'ongle de sa compagne sud-coréenne, mort congelée à Toronto dans les années 70 alors qu'il fuyait un hôpital psychiatrique. Un livre en forme à la fois d'autofiction de la relation entre le narrateur et sa compagne, de tentatives documentaires et documentées de comprendre ce qui s'est passé au Canada et dont les versions demeurent contradictoires ou aléatoires, et volonté d'approcher quelques fantômes politiques ou familiaux de la Corée. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Lise Wajmann, de cette autopsie littéraire que propose Cold Case et qui passe par beaucoup d'endroits ?
Alors donc c'est une enquête à partir d'un cas, j'ai un oncle congelé, déclare la compagne du narrateur, et non pas un ongle comme vous l'avez... Enfin, elle dit justement un ongle, comme vous l'avez dit vous-même, Joseph.
J'ai parlé d'ongle, ok.
Oui, parce que en fait le plus grand plaisir pour moi du livre tient justement dans la façon dont le livre fait parler Min-kyung, cette compagne du narrateur. Peut-être on y reviendra plus tard, mais on peut commencer par dire donc que c'est une vraie enquête familiale. Le précédent livre d'Alexandre Labruf, Wonderland, était sur le grand frère de l'auteur qui était confronté à de sérieux problèmes psychiatriques. Cette fois-ci, c'est une enquête autour de la famille de sa compagne, donc de cet oncle mort au Canada que sa compagne n'a jamais connu. Et c'est une vraie enquête avec recoupement d'informations, hypothèses plus ou moins abracadabrantes qui vont jusqu'au complot politico-mafieux, recherche de pièces, moment même où le héros s'isole pour travailler frénétiquement à la recherche d'indices, hein, comme dans les bons films d'enquête. Mais au final, je cite le texte, enfin plutôt je cite Min-kyung, donc la compagne, « On nage dans une flaque de flou, la vérité semble noyée dans le poisson ». Donc finalement,
ouais, c'est normal que j'ai confondu ongle et oncle dans la présentation de ce que dit la compagne d'Alexandre
Labruf.
Bah
oui, parce que tout est là. On n'aura pas de résolution, hein, même les fantômes vont finir par disparaître. On finira par apprendre que les photos de l'oncle mort ont été découpées pour ne pas figurer dans les albums familiaux. Et la belle-sœur du mort hurle au téléphone « Personne n'est fou chez nous, on veut disparaître de ce roman, on n'existe pas ». Donc pas de résolution. Donc qu'est-ce que cette enquête permet de faire ? Elle permet de faire une histoire de la Corée, notamment. Hein, pas seulement, elle permet de faire aussi une histoire de fou. Elle permet aussi de faire une histoire d'amour. Alors peut-être je laisse la parole à mes camarades, mais ce sont ces choses-là évidemment qui ont retenu mon attention.
Blandine.
Oui, je suis assez d'accord. J'ai pensé à J'ai lu ce livre comme l'élucidation d'une hantise, mais une hantise qui n'appartient pas à Alexandre Labruf, mais à sa compagne. Et c'est vrai que tout l'intérêt est là-dedans, dans ce déplacement de la hantise. Et j'ai pensé à Maggie Nelson, qu'il cite en exergue, qui avait enquêté Maggie Nelson librement, de manière fragmentaire et poétique, sur l'histoire d'un fantôme familial, une tante cette fois-ci, assassinée en 69. Et donc, j'ai trouvé chez Alexandre Labruf à la fois ce qui m'avait plu et ce qui m'avait frustré dans le livre de Maggie Nelson. Plaisir dans la forme, assez libre, fragmentaire, joueuse, voilà, avec des moments de poésie, de retour à la ligne, parfois des paragraphes assez chiffrés, documentés.
Oui, sur, des moments versifiés, même des extraits de coupures de journaux des années 70.
Voilà.
Matière très hétérogène.
Plaisir dans de ça et en même temps frustration dans le manque de liant et peut-être de souffle. C'est un livre assez morcelé. On parlait d'Alien la dernière fois en parlant comme d'un livre morcelé. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être qu'il y a quelque chose aussi en ce moment qui se joue de notre concentration en tant que lecteur, en tant qu'auteur. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de livres morcelés qui paraissent. Et bon, voilà, c'est morcelé et joueur, c'est à son avantage. C'est morcelé et joueur, c'est à son désavantage.
Younes.
Alors, comme Lise, j'ai pris beaucoup de plaisir en particulier sur ce franglais de Min Kyung, donc la compagne, et cette syntaxe dysfonctionnelle, comme il l'appelle le narrateur. Globalement, je n'étais pas certain d'aimer, et puis je trouve qu'il m'a quand même embarqué au fur et à mesure du livre, parce que je trouve que finalement, c'est un livre qui repose sur quelque chose d'assez simple, c'est qu'il y a un corps qui n'a pas de sens, et que tout l'enjeu du livre, c'est de créer du sens autour de ce corps. Et là où il y a précisément quelque chose où il n'y a rien à dire, et où cette famille s'est construite sur le fait de n'avoir rien à dire là-dessus, et de finalement isoler chacun, Alexandre Labruf, parvient à créer des enjeux et à imbriquer en particulier deux choses, qui est donc l'histoire de cet oncle, et à travers ça, de toute sa famille, de la famille de sa compagne, et même de la Corée. C'est un livre qui est intéressant, et c'est quand même son geste aussi, puisque dans sa lettre de Wuhan et d'autres titres, il avait déjà été un peu dans cette façon un peu de aussi faire découvrir d'autres cultures, d'autres sociétés. Et puis là-dedans s'imbrique cette exploration de son couple et de sa relation à sa compagne Min Kyung. Et finalement, un peu comme dans Tintin où on va à l'autre bout du monde pour trouver un trésor qui est devant soi, ben en fait, il va à l'autre bout du monde pour simplement essayer d'éclairer ce qu'il dit à sa compagne qui est « tu habites une douleur » et de finalement éclairer cette douleur. Et je trouve qu'en ce sens-là, ben, le pari est tenu et finalement, c'est une forme de victoire du sens et du verbe et du langage sur le non-sens qui a précisément isolé toute cette famille.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On va du coup en entendre un extrait. Après, quand même une question supplémentaire, puisque vous avez l'air de vous deux d'avoir beaucoup aimé la manière dont Alexandre Labruf reproduit effectivement le parler très créatif de sa compagne sud-coréenne, qui explique que son oncle est décédé à Toronto, que l'avenir de son oncle s'est pas réalisé, ou que le diable est dans les bétails. Vous avez toujours trouvé ça drôle et mignon, ou des fois c'est un peu embarrassant?
Alors, curieusement, non, mais parce que c'est en effet une question dans la mesure où quand on...
Parce que c'est parce qu'il a parlé de Tintin, là, voilà. Je me suis dit que c'était pas un hasard si moi, je trouvais ça émergeait.
J'ai pas trouvé que, justement, il y avait... Alors, effectivement, je sens que vous avez peut-être moins aimé, mais...
Il y a un petit côté, justement, Tintin reporter dans les pays étrangers, des fois... sur justement la reproduction d'une langue avec ses fautes, que j'ai trouvé aussi lente.
Alors, je pense que ce qui fait que ça m'a pas fait cet effet Tintin, c'est je suis d'accord avec Younes, c'est-à-dire qu'au fond, le fantôme de l'oncle finit par s'effacer, et celle qui prend corps dans le récit, c'est Min Kyung. Et ce qui fait qu'elle soit ventriloquée par l'écrivain et que ça ne m'est pas posé problème, je pense, c'est l'amour.
Ouais, il y a une tendresse et il y a un amour qui est indéniable.
En fait, et en creux, c'est quand même l'histoire d'un couple dont on ne comprend que des bribes d'ailleurs, mais une histoire d'un couple dont il nous donne aussi le point de naissance. C'est une femme dont on apprend qu'enfant, elle chuchotait, que son père était le seul à l'entendre et que la rencontre avec cette femme, entre cette femme et le narrateur adulte, passe par le fait qu'il la comprenne à sa grande surprise à elle, alors qu'elle parle trop bas. Donc c'est vraiment le fait, s'il l'a fait parler, c'est comme un hommage. Enfin, j'ai pas lu une espèce d'exotisme.
Non, mais je suis d'accord, mais vous comprenez qu'au
compte.
Début, comme on commence un peu sur ça, et qu'il annonce d'emblée avoir décidé d'aucun droit, bille en tête, de décongeler ton oncle, désosser la légende, déconstruire cette fable, en assumant d'être un Don Quichotte de la psychose.
Oui, mais il y a
quand même un acte un petit peu autoritaire, mais qui est effectivement.
Elle a pas l'air de se laisser faire. Et puis, moi, je dois vous dire qu'à un moment, il lui dit ta syntaxe est sexy, et je trouve ça mortel. Alors, allons-y.
Alors, écoutons la syntaxe.
Tu as beau me dire, je ne cache-cache rien. Pour toi, le mot caché en français toujours se dédouble. Je t'accule, je t'accuse, je mets en doute la déroute de ta mémoire, je creuse, je m'acharne dans l'idée de déterrer. débris, fossiles, entrailles, souvenirs grillés, giflés, mutilés, annulés, un os de réalité à ronger. Évidemment, nos entretiens finissent mal, toujours dans un éclat, constamment inachevé. Tu sors de tes gonds, et moi je m'entête dans ma posture de bad cop patibulaire, sbire de l'antipsy. C'est le rôle de ma vie. Parfois, des rires les ponctuent. En règle générale, à raison, tu me voles dans les plumes, claque la porte, balance ton mug, le carnet, tes feuilles à rouler, mes stylos, ton livre de chevet, te réfugies dans la chambre. Tu me traites de « fouille furieux », tu hurles. Tu m'agaches avec toutes tes questions. Je t'agace, oui. Pourtant, le miracle advient. Chaque fois, tu y reviens, laisse filtrer un détail. Des informations émergent au compte-gouttes. Bribes, miettes, blocs de temps, sans logique chronologique. Fracassés, dilacérés, des bouts de souvenirs apparaissent dans le désordre. Petit à petit, je remonte le temps, je reconstitue la généalogie du déluge, de la tragédie, mille morceaux désarticulés. Voilà, on a donc ce portrait en creux de cette compagne. Plutôt que la désarticulation de l'oncle, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la naissance de du portrait de cette femme, dont le repas préféré est quand même, il faut le dire, café kimchi camembert, et qui a l'air complètement imprévisible. Enfin, ça a l'air d'être un personnage et complètement extraordinaire. Et donc, ce que j'ai préféré dans ce livre, alors c'est peut-être mon côté fleur bleue, mais je pense en fait, c'est le côté fleur bleue d'Alexandre Labruf aussi. C'est précisément, c'est l'histoire de ce couple qui se raconte en creux dans l'histoire d'une quête sur un mort.
Oui, je suis d'accord avec ça parce que, bon, au fond, la quête est quand même un prétexte aussi par certains côtés. Elle aboutit quand même assez peu. Blandine Rinkel, puisque nous avons du côté de Lise et Younes des gens qui ont été totalement, qui ont adhéré en tout cas à ce dispositif, vous n'avez pas eu le sentiment que des fois on tombe un peu dans le pittoresque?
Dans le pittoresque, je sais pas. Moi, j'ai eu la sensation parfois que, à force de jeux de mots, de phonie et de caractère ludique, on forçait comme une légèreté un peu impotente à aller au bout de son sujet. Et peut-être un...
Vous dites tellement mieux que moi. C'est exactement ce que je pensais.
Et peut-être un désir de plaire aussi, qui m'a moi un peu mise à distance parce que je sentais qu'Alexandre Labruf voyait les effets que ça allait faire sur le lecteur. Et c'est vrai que je recherche dans les livres...
Il est un peu très conscient de ses effets.
Mais je rejoins vraiment Lise sur le... c'est mon côté fleur bleue aussi. Non, mais je rejoins Lise sur le... Ce qui est fort dans le livre, pour moi, c'est l'usage du « tu ». Je me suis dit, tiens, dans quel roman récent ou livre récent, il y a un « tu » qui a cette valeur-là? J'ai pensé à Lettre AD, alors c'est pas récent, mais Lettre AD d'André Gorz, ou à Histoire de ta bêtise de Bégodeau, pas du tout le même tu, mais un tu qui est quand même très intime, si intime avec la personne à qui cela s'adresse, qu'il peut se permettre d'asséner des jugements et qui peut se permettre en fait de décorcher légèrement la personne à qui il s'adresse. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça très beau, qu'il écorche sa compagne, qui se fout d'elle, mais que précisément par là, on sente l'amour.
Oui, puis elle se moque de lui aussi.
Elle se moque de lui aussi, ouais, bien sûr. Mais que justement, ça ne soit pas un amour qui cache voilà, ce qui est... Ben en fait, c'est ce que vous venez de lire, Lise. C'est très audible dans ce passage-là. Ils se rendent dedans et c'est précisément parce qu'ils se rendent dedans qu'ils s'aiment. Et ouais, j'ai trouvé ça très, très beau.
Et je crois qu'il faudrait pas aussi oublier qu'il y a quand même une certaine aptitude qui, au fur et à mesure du récit, est celle de la mise en œuvre finalement de cette enquête. Parce que, effectivement, cette imbrication entre l'enquête et le métarécit de l'enquête qui est se raconter en faisant cette enquête, c'est bien fait. Il y a cette dimension de couple qu'on a beaucoup évoquée, mais je crois qu'il faut aussi dire que c'est quand même intéressant ce qu'il raconte, c'est quand même intéressant ce qu'il trouve. Et finalement, c'est un peu un plaisir de polar aussi qu'on éprouve. Et je trouve qu'il y a quelque chose, moi, qui a été un peu en tournant dans ma lecture, c'est page 100, quand tout à coup, enfin 99 pour être exact, il met la photo de
coupure de journal.
De la coupure de journal. Et je trouve que ça crée un effet de réel qui, d'un coup, m'a fait dire « Ah oui, c'est sérieux aussi ». Et donc, effectivement, moi aussi, au début, j'étais un peu parfois agacé par ce mélange entre jeu sur les jeux de mots et des expressions un peu anciennes et qui parfois aussi un peu mauvais goût. Mais finalement, à force, il m'a emporté à la fois par tout ce qu'on a dit avant et par aussi cet effet de réel et finalement tout ce qu'il réussit à trouver qui est quand même assez intéressant et inattendu.
Oui, et puis c'est très intéressant quand même cette affaire de dire que ce n'est pas seulement un corps à autopsier, mais l'illusion qu'on avait fait venir ton oncle sur les rives de ce sous-continent, enfin sur le fait qu'on va rejoindre en fait le passé tragique de la Corée, colonisée par le Japon, frappée par une dictature, si bien que 18 000 Coréens ont émigré au Canada. dont beaucoup n'ont pas supporté le choc psychologique de cet exil brutal. Ça, moi, je ne connaissais rien là-dessus, donc j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a fait faire aussi, à partir de ce livre, des recherches. J'ai l'impression d'avoir eu une histoire qui s'est ouverte à moi.
Cold Case, signé Alexandre Labruf, c'est paru aux éditions Verticales.
L'esprit critique. Mediapart.
Les éditions du Tripode poursuivent leur travail de republication des livres du grand écrivain argentin Juan José Saer, né en 1937 dans la province de Santa Fe en Argentine, et mort en 2005 à Villejuif après avoir passé toute la dernière partie de sa vie en France. Après L'Ancêtre, puis Glose, les deux textes les plus connus de Juan José Saer, c'est L'Occasion, paru initialement en 1987, que les lectrices francophones peuvent à nouveau se procurer facilement dans la traduction faite par Laure Bataillon. Le personnage principal de L'Occasion, Bianco, a fait le trajet inverse de Juan José Saer, gagnant l'Argentine depuis l'Europe, mais à une toute autre époque, puisque le livre se situe dans la seconde partie du 19e siècle, alors que la pampa argentine, monde ouvert et sauvage, voit arriver des modèles européens, en particulier la clôture de terres grâce à des fils barbelés pour délimiter leurs parcelles. Un business dans lequel s'engage Bianco en compagnie d'un associé et ami, Gary Lopez, qu'il découvre un jour contemplant sa femme fumant un cigare en souriant, ce qui suffit à le convaincre d'une tromperie qui va prendre toute la place dans sa vie. Alors, à quoi tient Younes Bousséna peut-être le charme ou le rythme particulier de l'écriture de Juan José Saer, si vous partagez cet avis?
Tout à fait, je pense que Juan José Saer est un virtuose et il est de plus en plus reconnu comme tel depuis effectivement ce travail de réédition du Tripode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est L'Ancêtre, voire Glose qui sont les plus connus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que L'Occasion, en 87, lui avait valu le prix Nadal, qui est le plus prestigieux prix hispanophone, et avait participé de son vivant à le consacrer dans le monde hispanophone. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi pour pénétrer cet univers qui est celui de Juan José Saer. La puissance de ce roman, c'est celle d'emboîter des ressorts narratifs qui, à la fois, l'humiliation originelle de Bianco, cette humiliation qu'elle a été humiliée dans son spectacle de télépathie à Paris par des positivistes qui, en gros, infirment le fait que l'esprit puisse gagner sur la matière.
Oui, parce que là, donc, il faut préciser qu'il a eu une carrière avant d'arriver en Argentine. Voilà. Bianco, donc le personnage principal, a été un mentaliste, enfin quelqu'un capable de réparer des montres à distance, tordre des cuillères, qu'il se produisait en affirmant, au fond, la supériorité des forces de l'esprit sur la matière et qu'il lui arrivait un moment où il a été moqué, pris en faute, enfin, ou en tout cas en facilité, et que ça a contribué aussi à son exil vers l'Argentine.
Voilà, l'humiliation, c'est vraiment le moteur originel de cette trajectoire qui est suivie par cette question du possible adultère. Et je trouve que la virtuosité de Saer, elle est triple dans ce roman. Elle est à la fois d'avoir un enjeu métaphysique, puisqu'il est question de l'esprit de la matière, ce qui n'est quand même pas une mince affaire quand on est un être incarné comme nous.
Et la matière de l'esprit, hein, parce que...
Un niveau psychologique, puisque Bianco sombre peu à peu dans une paranoïa qui se noue donc à travers cette relation triangulaire avec Gina et Gary Lopez, qui est son ami, mais qui est aussi son associé, puisqu'ils ont une affaire de vente de fil de fer qui est aussi assez symbolique finalement dans l'activité. Et enfin, un enjeu narratif et romanesque, puisqu'il met en œuvre tout ce dévoilement autour de ces enjeux, en jouant notamment avec les genres. Alors il puise un peu dans le livre historique et de la littérature de la pampa en Argentine, dans une aptitude au dévoilement qui montre aussi que c'est un grand lecteur et qu'il peut mobiliser plusieurs genres pour aller au bout de ses œuvres, de ses tentatives romanesques. Et je trouve que voilà, c'est un livre qui, en tout cas, montre cette virtuosité et qui, peut-être pour terminer, voilà, porte un propos qui est extrêmement puissant et profond, je trouve, sur notre époque moderne, qui a finalement séparé la matière sur l'esprit. Et là où on dit beaucoup que c'est ceux qui font triompher la matière qui posent problème, bah, il montre aussi que cet homme structuré par l'envie de faire triompher l'esprit sur la matière est lui aussi tout aussi malade, en fait.
Lise.
Ouais, il faut dire, vraiment redire, que c'est de la très grande littérature. Un des écrivains argentins les plus importants du XXe siècle, dit son éditeur, et on ne peut qu'être d'accord. Il faut dire aussi que la traduction de Laure Bataillon est extraordinaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un roman qui, certes, brasse des enjeux métaphysiques, mais c'est d'abord une sorte de réservoir à histoire dingue. C'est donc un type qui s'appelait Burton, mais qui s'appelle désormais Bianco, bien qu'il soit roux, qui a des pouvoirs télépathiques, qui va ensuite jouer les héros de la Pampa, qui va découvrir l'amitié et l'amour, mais rien ne va. Et en même temps, ça embranche sur d'autres histoires, des histoires avec des embranchements qui ne sont pas signalés. Donc on s'engouffre dans une, tout d'un coup, une
nouvelle
histoire.
Oui, il
faut
bien dire que la narration n'est pas du tout rectiligne. Hein.
On va
de, il y a des boucles temporelles, des flashbacks, des ressassements, des accélérations.
Et en même temps, finalement, on retrace tout. Enfin, on n'est pas perdu. Hein. On est quand même bien, bien... Ouais.
Oh, on n'est pas assez perdu si on est bien concentré et si on maîtrise à la fois la matière et l'esprit.
C'est exigeant.
Alors moi, je crois que c'est pour moi, c'est un récit sur ce que c'est que de vivre dans un monde sans Dieu et ce que c'est que de vivre, de se faire à sa propre impuissance. C'est un roman sur la croyance et le doute, puisque au départ, c'est un héros puissant. Alors, il s'appelle Bianco, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est l'Europe, ceux qui arrivent en colons, qui achètent les terres, qui méprisent les Indiens et qui va se heurter à son impuissance. Il a cru fuir une situation d'impuissance qu'il a vécue en Europe et il pense qu'il va se réapproprier du pouvoir, dominer à nouveau le monde en se réinventant en héros de la Pampa. Sauf qu'il se retrouve à nouveau captif parce qu'il est pris dans une jalousie amoureuse délirante autour de sa sublime épouse Gina. Et donc, de nouveau, il se retrouve en butte à sa propre impuissance.
Blandine, sur la même chose avec cette question un peu supplémentaire, moi, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi, voulant faire tout ça, on va peut-être parler aussi de la dimension du contre-mythe hein, qu'il crée, c'est-à-dire que l'ancêtre racontait au fond la conquête des Amériques depuis les Amériques. Là, il raconte comment ces terres sauvages marquées par les figures du gaucho deviennent d'un coup encloses, enfin pas d'un coup mais progressivement par des méthodes européennes, donc il y a aussi une dimension très politique là-dedans, mais je me suis un peu demandé pourquoi il choisit au fond un motif très bourgeois. Est-ce que ma femme m'a trompé avec mon associé meilleur ami? Enfin, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il prenait une figure aussi classique et un peu ennuyeuse, il faut bien le dire, de... Bon, ok.
Il me semble que ça commence par quelqu'un dont l'identité est douteuse et un récit dont la trame est trouble, on ignore jusqu'à son nom, comme vous l'avez dit, Lise. Et donc l'incertitude et jusqu'à la tromperie sont au cœur du qui se fait tromper et tromper par qui. Est-ce Bianco qui se fait tromper par sa femme qui lui échappe? Est-ce son espèce d'adversaire Garé Lopez qui est atteint de la fièvre jaune et est suspect de trahison amoureuse? Est-ce que c'est la femme de Bianco finalement qui se fait tromper par son époux qui ne la croit plus, qui doute d'elle en permanence? Qui trompe qui? Pourquoi? Il y a un doute généralisé quant à la réalité des choses. Et en effet, en ça, c'est vrai que c'est un livre sur un monde sans Dieu où le doute domine, en fait. Et donc, tout peut potentiellement nous tromper à chaque instant. Et donc, pour moi, c'est pas seulement la tromperie bourgeoise, amoureuse, voilà. C'est vraiment la tromperie comme motif presque métaphysique, quoi.
Younes, peut-être avant de continuer la discussion, on en entend un extrait pour voir un peu la langue de Juan José Serre traduite par Laure Bataillon.
Bianco sort du lit et se dévêt. À la haine, au désir, s'ajoute à présent la terreur, la conviction que le désir de Gina est autonome, indépendant du sien, comme une ondulation qui vient de plus loin que toutes les intentions, tous les sentiments et toutes les déterminations. La saisissant aux épaules, il la retourne sur le dos. Une raie de poils verticale part de son nombril et s'étire le long du ventre pour former avec le triangle du pubis une flèche noire qui semble indiquer, sans équivoque, le chemin de l'abîme rouge. Bianco entre en elle. Atterré, il se laisse tomber sur le corps qui s'agite, forme palpitante et de hasard, sans autre loi que celle de ses propres transformations, de ses appétits chimiques, de ses tissus avides et de ses humeurs, matière assemblée en ganglions, en air, en peau, en sang fumant, et il se sent à nouveau vaincu, sans envie d'être vivant ni de recommencer, souffle prisonnier des griffes excrémentielles du secondaire, jusqu'à ce que, effaçant même son dégoût et ses hésitations, l'entraînant pendant un temps incalculable le long d'un couloir sombre, survienne l'orgasme, la pluie subite de sperme qui libère, féconde et perpétue.
Alors pourquoi vous avez choisi cet extrait, Younes Boussena?
Déjà, ça parle tout seul. Je crois qu'on voit toute la poésie extraordinaire de Serre, où finalement, il y a ces enjeux métaphysiques, mais qui sont donnés avec une langue et une atmosphère extraordinairement poétique. Là où 99,7% des écrivains auraient fait un livre platement cérébral, abstrait, lui, Serre, il est capable d'incarner des enjeux aussi puissants, à travers le sperme, à travers un orgasme, à travers cette relation. Je crois qu'on voit aussi, effectivement, ce qui était dit juste un peu avant la lecture, c'est-à-dire ce rapport à Gina, qui pour moi, effectivement, n'a rien de bourgeois, puisque déjà l'adultère n'est pas réservé aux bourgeois. Et puis au-delà de ça, je crois que en fait ce qui joue, c'est effectivement ça, c'est dominer Gina. Il y a un passage vers 119-120 les pages, où il montre très bien qu'en fait, la façon dont il conquiert Gina et se marie avec, c'est une façon de dominer la matière. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de machisme, de misogynie un peu intrinsèque aussi à son rapport au monde, qui en fait se structure dans cet ego qui devient complètement hyperbolique et paranoïaque, précisément parce qu'il n'y a plus Dieu et c'est lui qui se prend pour Dieu en fait. Et c'est ça finalement le drame et la tragédie de cette occasion.
Lise avec un casque très bizarrement placé sur la tête opine malgré tout du chef.
Je ne sais pas si lui se prend pour Dieu. C'est plutôt que il, au fond, c'était quelqu'un qui a connu une période faste où il a pu épater un public avec ses pouvoirs, un monde où il obtenait aisément de la croyance et où lui-même était un croyant. Il faisait pas ça par cynisme ou pour duper. Et au fond, avec cette histoire de jalousie, ce qu'on...
Oui, il faut
ça...
juste préciser hein, qu'il se produisait sur les scènes, il avait été demandé par le gouvernement allemand pour plier ses dons.
Des morceaux de métal, remettre les montres
à l'heure. Il a eu en Europe un moment de starification, oui. Même si le terme est anachronique, qui fait que là, quand il se retrouve au milieu de la pampa, il faut bien qu'il retrouve un peu de sa puissance.
Et au fond, ce sur quoi il bute avec cette jalousie obsessionnelle, c'est qu'il est pris en permanence par le soupçon. Mais ce que le livre nous raconte, c'est qu'au fond, le soupçon n'est pas plus désirable, le doute n'est pas plus désirable ou plus rationnel que le monde de la croyance, que c'est un monde totalement délirant aussi. Donc, à ce titre, j'ai trouvé que c'était un roman incroyablement moderne, tout en nous racontant quelque chose de très ancien. Alors, j'hésite à le dire parce que c'est très très loin des préoccupations de Serre, mais au fond, je me suis dit, c'est pas sans rapport avec ce que vivent beaucoup des électeurs trumpistes ou d'extrême droite aujourd'hui, qui découvrent leur propre impuissance, qui préfèrent la logique complotiste au monde réel pour avoir le sentiment de continuer à maîtriser quelque chose. Bon, mais laissons cette fin. Ce rapprochement est complètement anachronique et puis c'est vraiment pas ça que ça raconte. C'est plus troublant que ça, parce qu'au fond, c'est un récit qui fait sa force du caractère complètement impénétrable des personnages. Bianco est obsédé par le fait que sa femme ait pu le tromper et qu'elle lui soit illisible. Mais pour nous, en fait, c'est Bianco lui-même qui est illisible. Qu'est-ce que c'est que ce type dont on ne comprend pas d'où il vient ? Et en fond, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière un visage. Et c'est ça que ça nous raconte. En lui arrachant le masque, croyant découvrir son visage véritable, on a laissé sa place à un trou noir, écrit le narrateur.
Blandine.
Oui, c'est l'histoire d'une lutte intérieure aussi, puisqu'il est toujours d'apparente humeur égale quand même, ce Bianco. Et il est agité par des angoisses internes terribles. Et en fait, je vous rejoins, moi, Lise, j'ai vu presque un complexe de l'occidental blanc, fragile, qui se sent voilà, tout fébrile, tout à côté des gauchos, qui lui semblent mythologiques et d'un bloc, ouais. En fait. Le gaucho, le cow-boy de la pampa, et ce mythe dans l'imaginaire collectif argentin apparaît au temps des colonies espagnoles. Et lui, Bianco, le narrateur, il n'est pas d'un bloc, il n'est pas viril, il est fourbe, il est double, et enfin, il se perçoit comme ça, en tous les cas. Et c'est vrai que j'y ai aussi vu un livre sur l'impuissance qui rend le personnage féminin, par contraste, très intéressant quand même. Parce que c'est pour une fois qu'on a une femme mystérieuse, mais c'est-à-dire vraiment mystérieuse, c'est-à-dire vraiment l'altérité. Ça lui résiste, ça résiste à cet homme. Il n'arrive pas à la posséder, il n'arrive pas à la dominer, il n'arrive pas à en être certain en tous les cas. C'est pas parce qu'il se marie, il n'en est pas certain.
Enfin, même il est certain qu'il n'obtiendra pas d'elle la vérité qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir absolument chercher.
Et en même temps,
chercher.
Il est obsédé par la sensualité débordante de cette femme. Enfin, le passage que lisait Younes tout à l'heure, il y a d'autres scènes sexuelles où, enfin, et puis par ailleurs, son corps est en permanence exhalé dans toute sa.
Ouais, et puis il y a une scène incroyable où Gina en question regarde des chevaux qui essayent de copuler. Ça, c'est une scène incroyable. Des chevaux qui essayent de copuler, mais c'est un peu une image de ce que lui vit. Parce qu'en fait, l'homme cheval, j'allais dire, comment on dit le cheval, en fait. Le cheval essaye de pénétrer la jument.
Les talons, je pense que c'est.
Les talons. Et à chaque fois qu'il essaye d'y aller, elle bouge un peu, pas. C'est juste qu'elle lui échappe. Elle échappe à l'étalon, cette jument. Et elle voit Gina, Bianco, voit Gina regarder cette scène. Et lui, cette scène l'inquiète. Et il voit qu'elle, elle est complètement immergée. Elle est devenue les chevaux. Et lui n'en est pas capable. Et donc, encore une fois, elle lui échappe, elle lui résiste. Il n'arriverait pas à la dominer. Et j'ai trouvé ça beau, un personnage masculin qui perçoit comme ça qu'il ne pourra pas dominer, quoi qu'il fasse, qu'il ne pourra pas dominer celle qu'il a en face de lui, parce qu'il la désire.
parce que le désir n'est pas affaire de domination.
Justement, le désir, c'est précisément peut-être un des derniers points que je voulais évoquer, c'est qu'à un moment, il dit très clairement qu'en fait, le désir qu'il éprouve pour Gina, c'est le piège dans ses propres sentiments, parce que c'est un piège que lui tend la matière. C'est écrit comme ça, page 120. Et c'est là où il est inhumain, en fait. C'est que finalement, il nie la logique même de la vie, du vivant, qui est la force d'attraction pour les autres, qui le dépasse, et il refuse de se faire dépasser. Et c'est là où il se prend pour un dieu. C'est qu'il pense pouvoir maîtriser par son seul ego et sa seule volonté le réel. Et c'est pour ça que finalement, c'est un personnage qui est noyé dans une forme d'inhumanité. Et d'ailleurs, il y a un alcoolisme aussi qui est une des thématiques latentes de sa déchéance.
Et juste pour finir, Younes Boussena, on disait tout à l'heure, hein, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, que Juan José Saer est une des grandes figures du monde littéraire argentin. Mais récemment, mon collègue Ludovic Lamont écrivait dans Mediapart qu'il en était quand même demeuré une sorte de marginal qui s'était tenu à distance de certains courants dominants, que ce soit le réalisme magique ou ce qu'on appelait le boom latino avec Mario Vargas Llosa, Cortázar, Marquez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait, lui, il est parti. Il s'est installé en France en 68 et il y a vécu jusqu'à la fin de sa vie, au début des années 2000. Il est beaucoup comparé à Borges en Argentine et je pense que c'est vrai sur la dimension très métaphysique notamment. Il est très reconnu en Argentine, dans le monde entier. Ses archives sont à Princeton ou Columbia ou dans une université américaine qui m'échappe. En France, il est de plus en plus reconnu et je pense qu'il a aussi beaucoup été inspiré par le cinéma qu'il passionnait, par le nouveau roman. Il a un peu diffracté tout ça, mais il part quand même de la poésie de Juan L. Ortiz qui, à Santa Fe, était ce poète argentin qu'il a beaucoup fréquenté.
L'occasion de Juan José Saer, traduit par Laure Bataillon, s'est paru aux éditions du Tripode. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Karen Beune.